Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce matin, ça devient concret. La flamme olympique va s'allumer, la torche va s'embraser en Grèce, dans le berceau de l'olympisme. RMC est sur place ce matin. Après le cinéma et l'armée, la parole se libère à l'hôpital avec de nombreux témoignages de femmes dénonçant les agressions sexuelles et les remarques déplacées dans les hôpitaux. Et puis Paris, le foot, le PSG qui va devoir faire une remontada ce soir 21h en quart de finale, retour de Ligue des Champions à Barcelone.
Et puis ne manquez pas à 8h30 deux invités pour revenir sur le terrain, une juge et un maire. La juge, c'est Béatrice Brugère. Le maire, c'est le maire de Viry-Châtillon, là où Shamseddine, vous vous en souvenez, a été assassiné il y a deux semaines pour avoir échangé avec une jeune fille. Le ministre de la Justice veut durcir les sanctions, à la fois contre les jeunes, mais aussi contre leurs parents. La réaction et le récit de ces deux acteurs de terrain, la juge et le maire, c'est donc à 8h30. C'est un peu le début des Jeux Olympiques ce matin.
Oui, à moins de 100 jours. Hein. C'est en fin de matinée que la flamme olympique sera allumée dans la plus grande tradition à Olympie en Grèce. Et alors dans le berceau de l'olympisme, vous êtes Julien Richard pour RMC.
Oui, sur les ruines du temple d'Héra, vieux de 2600 ans, site des premiers Jeux Antiques. À 11h, comme le veut la tradition, la grande prêtresse tendra un flambeau face à un miroir parabolique et les rayons du soleil feront jaillir le feu olympique.
L'allumage de la flamme, c'est là où tout commence.
Alain et Jean-Michel ont spécialement fait le déplacement de Bretagne.
L'allumage de la flamme à Olympie, ça a une valeur symbolique forte auquel nous, on voulait absolument assister.
On porte les valeurs à la fois de l'Olympisme et puis les valeurs de la France.
Une cérémonie qui fait la fierté des Grecs.
La paix pour tout le monde.
Angelo, 80 ans, né à Olympie.
Pas les guerres, rien du tout. Et this is the history.
C'est l'histoire. L'esprit de la flamme, c'est la paix. C'est l'esprit olympique.
This is okay, the Olympic spirit.
La flamme, symbole de la trêve olympique, souhaitée par le président du Comité international olympique, Thomas Bach.
On vit des moments très difficiles dans le monde. C'est pourquoi nous espérons que cette cérémonie va inspirer le responsable de se souvenir de la trêve olympique.
Et autre symbole à la fin de la cérémonie, un premier relayeur grec transmettra la flamme à Laure Manodou, championne olympique du 400 mètres nage libre il y a 20 ans à Athènes.
Alors la flamme va sillonner la Grèce pendant 10 jours avant d'embarquer sur le Bélème en direction de Marseille où le relais de la flamme olympique va commencer le 8 mai. Et à Paris, le 26 juillet, la cérémonie d'ouverture est bien prévue sur la scène, insistent les organisateurs, même si Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, a évoqué hier matin sur RMC des plans B et C, autre cas d'erreur, au Stade de France en cas de menace terroriste. Il est 8h03 sur RMC. Et la parole donc se libère à l'hôpital, après le cinéma et l'armée. C'est donc dans le monde hospitalier que des voix s'élèvent pour dénoncer les agressions sexuelles et les remarques déplacées avec, comme à chaque fois, le hashtag MeToo. Les soignantes que vous allez entendre avec Johanna Chabas pour RMC évoquent une omerta dans un milieu toxique.
4 ans après, Marie se souvient très bien de son début de stage dans un service de chirurgie à Paris.
Il y a un médecin, un supérieur hiérarchique, qui a commencé à me prendre à part pour me poser des questions personnelles directement. Je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire avant de demander mon prénom. Après les paroles, s'en est suivi des gestes. Il me claquait la cuisse, me touchait le dos par surprise le matin pour me dire bonjour, en disant « mais c'est juste pour dire bonjour, t'inquiète pas ».
Autre témoignage, cette stagiaire qui préfère rester anonyme. Pour elle, l'omerta est toujours trop forte.
C'était des remarques placé, sexiste, en mode vous devriez ouvrir plus votre blouse. C'est difficile de réagir en tant que stagiaire. On est tout le temps évalué. Pour être évalué que ça se passe bien, il vaut mieux rien dire.
Selon Anna Boctor, vice-présidente du syndicat des jeunes médecins, le milieu hospitalier très hiérarchique est propice à cette violence.
Les postes à pouvoir, comme les professeurs universitaires, sont majoritairement occupés par des hommes, donc à 80%. Et en fait, ces personnes qui ont les pleins pouvoirs vont se protéger, vont se couvrir et qui fait que forcément, les premières victimes sont des femmes.
Elle encourage les victimes à prendre la parole. Le syndicat des internes des hôpitaux de Paris a ouvert un appel à témoignages.
Une nouvelle opération contre l'insécurité et l'immigration clandestine lancée ce matin à Mayotte. On l'a appris il y a quelques minutes, un an après une première opération de ce type. 1700 policiers et gendarmes vont être mobilisés jusqu'à la fin du mois de juin. Des réactions ce matin au projet de loi du gouvernement qui veut durcir les sanctions contre les mineurs délinquants, mais aussi contre leurs parents, jusqu'à 3 ans de prison, par exemple, au lieu de 2 pour ceux qui se soustraient à leurs obligations. Tout ça dans la foulée des agressions de Montpellier, Viry-Châtillon, Romans-sur-Isère, c'était la semaine dernière, des agressions qui, à chaque fois, impliquaient des adolescents. Mais c'est de l'affichage et ce n'est pas la bonne méthode, dénonce ce matin Kim Reflet, la présidente du syndicat de la magistrature.
Ce n'est pas en culpabilisant les parents, en les sanctionnant financièrement, qu'on va les restaurer dans leur capacité à faire autorité sur leurs enfants. Ça n'est pas du tout dissuasif pour les enfants qui n'ont pas en tête les règles de responsabilité parentale avant de commettre des délits. On sait que ce qui fonctionne, c'est l'éducatif, que l'éducatif, c'est du temps long, de l'insertion, donc des investissements très coûteux. Le gouvernement, eux, ils veulent clairement afficher un visage de fermeté. Ce qu'on sait, nous, comme professionnels, c'est que ce sont des solutions qui ne fonctionnent pas.
Écoutez ce chiffre ce matin, 36 millions et demi d'euros. C'est pas le jackpot de l'euro-million, c'est le salaire que devrait toucher Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. L'assemblée générale des actionnaires du groupe est convoquée aujourd'hui, notamment donc pour voter cette rémunération. Pendant ce temps, les salariés ont reçu une prime d'intéressement qui a été revue à la baisse cette année. Ça grince forcément dans les usines à Marion Gauthier.
C'est l'écart de rémunération entre le patron et ses salariés qui dérange Jérôme Boussard, le secrétaire général CGT de l'usine de Sochaux.
Quand on voit que M. Tavares va toucher 100 000 euros par jour et qu'il continue à casser les emplois et à mettre en concurrence les salariés à travers le monde chez Stellantis, c'est complètement indécent.
Sans parler des dernières négociations salariales, les augmentations ne sont même pas au niveau de l'inflation, regrette le délégué central CFDT Benoît Vernier.
Le problème pour nous, il est dans la cohérence. Chaque jour, on nous demande de la frugalité. On a des problèmes de toiture qu'il faut réparer. Ben, c'est la croix et la bannière pour avoir les investissements. Dès qu'il faut sortir un euro, il faut batailler.
Mais certains élus nuancent et justifient hors micro la rémunération de Carlos Tavares, qui a sauvé l'entreprise PSA du naufrage, rappelle Christian Lafaye, un ancien syndicaliste force ouvrière tout juste retraité.
Pour moi, Carlos Tavares, c'est le Mbappé de l'automobile. Si on veut un grand capitaine, oui, ça se paye. Maintenant, 36 millions, bon, c'est démesuré. Si c'était 10 de moins, ça serait peut-être plus audible.
Il s'insurge plutôt des milliards reversés aux actionnaires. Tavares, lui au moins, dit-il, il bosse.
8h06 sur RMC, c'est une longue journée qui commence pour les supporters du Paris Saint-Germain qui attendent avec impatience le quart de finale retour de Ligue des Champions ce soir, 21h, à Barcelone, et qui espère un grand Kylian Mbappé pour remonter la défaite 3-2 du match aller.
Tout le monde attend vraiment un coup de magie de la part des Parisiens, notamment d'Mbappé.
Les matchs comme ça, c'est les seuls matchs qu'il attend.
Qu'il laisse quelque chose qui marquera à jamais son passage. C'est maintenant ou jamais, on a donné le meilleur de nous pour la suite.
Maintenant ou jamais, voilà ce que disent les supporters. Il y en aura 3000 ce soir au stade Montjuïc de Barcelone. Les ultras sont partis hier soir de la capitale. Ils ont roulé toute la nuit en direction de la Catalogne où vous êtes déjà en direct ce matin, Arthur Perrault pour RMC. D'ailleurs, les joueurs du PSG sont surpris d'un tel soutien de la part de leurs supporters.
Oui, c'est un voyage important aussi pour les fans parisiens. Le parcage visiteur du stade de Montjuïc de Barcelone sera complet. Parmi ces 3000 supporters présents, 1500 membres du collectif Ultra Paris. Mais avant, les fans du principal groupe de supporters ont un véritable périple à boucler. Environ 14 heures de bus. Ils sont partis hier soir à 20h30 du Parc des Princes, arrivés espérés vers 10h dans le centre-ville de Barcelone. Au programme pour eux, récupérer leurs billets avant un rassemblement qui s'annonce bouillant, Plaza d'España. Dans la foulée, un cortège est prévu jusqu'au stade olympique situé sur une colline au sud-ouest de la ville. De quoi impressionner les joueurs parisiens. Le défenseur Achraf Hakimi se dit fier de ses supporters et rassuré de leur présence dans ce match décisif.
La soirée spéciale pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions sur RMC dès 18h, le match à 21h évidemment sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé. Ce ne sera pas le seul événement du jour à Barcelone puisqu'on va revoir Rafael Nadal au tournoi de tennis de Barcelone, l'Espagnol qui fait son grand retour à la compétition, lui qui est blessé depuis janvier et qui rêve de remporter un 15e Roland-Garros.
C'était le journal de Quentin Vinet.